Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Dans les années 50, vous étudiez d'abord les animaux avant de réaliser que les végétaux vous passionnent beaucoup plus.
Ma spécialité, c'est les plantes tropicales.
La curiosité est un vilain défaut.
Les expéditions sur la canopée bouleversent la connaissance du genre végétal.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux.
Vous découvrez de nouvelles espèces d'arbres et des ressources énormes pour la médecine et la pharmacopée.
J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes Francis Allais, notre invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
Vous êtes botaniste, on est ravis de vous accueillir. Alors, j'allais commencer par quelques exemples. Un arbre étrangleur, une fleur aussi belle que, comment dire, puante, fétide.
Oui,
une plante qui danse, qui a le rythme dans le pot. On comprendra le jeu de mots tout à l'heure. En tout cas, c'est avec vous qu'on va découvrir cette nature drôle, mais bien réelle. Ces plantes étranges, cocasses, vous les collectez, vous les avez rassemblées dans un très beau livre que vous publiez aux éditions Artaud, Atlas de botanique poétique. Vous faites les dessins, évidemment, qui accompagnent ces textes. Première rencontre avec une fleur qui est tellement jolie, c'est une jacinthe d'eau. Elle ressemble à quoi ? Il faut la dessiner à la radio, il faut les dessiner vos fleurs ce soir.
Ici, ce que vous me demandez là,
je
une
sais.
Grande fleur bleue avec une belle tache jaune au milieu. Et c'est une plante tellement belle et qui fleurit tellement que voilà, les gens les ont pris dans la nature et les ont emmenés dans leur jardin dans le monde entier.
Alors ils ont pris dans quelle nature, dans quel pays ?
C'est l'Orinoco.
Donc là, on est en quoi ? Colombie, dans ce coin-là, Venezuela, non, c'est pas
Venezuela.
Par là ? Venezuela.
Oui.
Elle voyage comment, cette fleur, la jacinthe d'eau ?
Elle voyage pas. Mais si, évidemment, si on la prend et qu'on l'emmène ailleurs, en Afrique par exemple, là, elle envahit tous les cours d'eau.
Ah oui, parce que c'est ça le souci. C'est que
elle
n'aurait
pas fait ça elle-même.
C'est une très belle plante, mais c'est une plante envahissante. Pourquoi elle grandit si vite ? C'est dans sa nature, tout simplement ?
Oui, je ne peux pas répondre à cette question. Elle est extrêmement efficace.
Ouais. Mais en revanche, cette expansion, elle pose des difficultés.
Et on ne peut plus naviguer. Des grands fleuves africains ou des bateaux profonds circulaient, on ne peut plus.
À ce point-là ?
Oui.
Mais c'est-à-dire qu'elle se développe de quoi ? Par exemple, on part d'une petite jacinthe d'eau et le lendemain, il y en a 10 mètres carrés, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
À ce point-là ? Et qu'est-ce qu'elle empêche aussi de cette jacinthe d'eau ? Elle empêche la nature, les poissons de se développer ? Il n'y a plus d'oxygène si elle recouvre les lacs, par exemple, les points d'eau. Expliquez-nous un peu.
Il n'y a plus de lumière dessous. Et donc les algues du fond, elles meurent. Et du coup, les poissons meurent. Il n'y a plus qu'une énorme couche de jacinthe d'eau. Une véritable peste.
Hein. Alors, une jolie peste.
Du coup, les humains ont décidé de s'en accommoder. Qu'est-ce qu'ils en font ?
On a commencé par essayer de lutter.
Oui.
On les broyait.
C'est vrai ?
L'ennui, c'est que chaque fragment redonne une jacinthe. Il ne faut surtout pas la broyer.
Ouais.
On a essayé de la brûler avec du napalm. On a tout essayé. Et puis, on a le dessous. Cette plante, elle est évidemment bien plus forte que l'être humain.
Donc est-ce qu'on la récolte ? Est-ce qu'on peut en faire, par exemple, de la nourriture pour le bétail, des choses comme ça ?
Exactement, il vaut mieux l'utiliser, parce que lutter contre, c'est perdu d'avance.
Mais alors quand elle nourrit le bétail, par exemple, cette jacinthe d'eau, on en fait quoi, puisqu'on ne peut pas la broyer ? On la coupe en morceaux ?
Non, ouais. On la récolte, on la sort de l'eau. Et puis on fait des boulettes d'aliments pour les animaux, ça marche très bien.
Alors j'ai lu aussi qu'on pouvait en faire de ces jacinthes d'eau des meubles, et même... Elles sont utilisées pour purifier l'eau. Mais en fait, elles servent à tout.
Oui, ben voilà, il vaut mieux une force de la nature comme ça. Il vaut mieux la mettre de notre côté que d'essayer de lutter.
Alors, dans la série des belles plantes étouffantes, il y a le figuier étrangleur. C'est quoi, ça ?
C'est un figuier... Bon, il y en a beaucoup. Il y en a des milliers dans les forêts tropicales. On en voit plusieurs dans la journée. C'est un figuier qui germe en haut d'un arbre. La graine mise au sol, elle ne germe pas. Il lui faut de la lumière.
Ah oui.
Mais elle se balade comment, cette graine ? Comment elle arrive là-haut ?
Dans les chiures comment des oiseaux.
Voilà. Ah, j'allais dire, quel ascenseur elle a trouvé ?
Non.
D'accord, les cacas d'oiseaux.
Les cacas d'oiseaux.
Ah oui.
Ah, c'est un bon véhicule, ouais.
Et alors, pourquoi il est étrangleur, ce figuier ?
Alors, il est étrangleur parce que donc, la graine germe en haut et puis elle envoie des racines jusqu'au sol en entourant le tronc de l'arbre support. Et puis, le pauvre arbre support, il ne peut plus grossir, donc il meurt.
Ah oui, c'est un vrai carcan. Il n'y a aucun arbre qui peut résister à ce figuier étrangleur, si ?
Ceux qui ne grossissent pas, les palmiers, par exemple, ça ne les gêne pas du tout.
Les eucalyptus aussi, peut-être, qui poussent en hauteur. En fait, c'est ça, il faut pousser en hauteur pour y échapper.
Tout arbre qui pousse en diamètre, il est foutu.
Et vous avez voyagé, en fait. C'est ça qui est assez fascinant dans votre démarche, Francis Allais, c'est que vous êtes allé voir cette nature, voir ces plantes surprenantes, bizarroïdes. Par exemple, vous êtes un jour dans la forêt de l'île de Sumatra, en Indonésie, et vous êtes attiré par une odeur, il faut dire qu'elle est quoi, terrifiante, hein, particulière.
L'odeur de charogne ou de comment dire,
l'odeur de la mort.
Oui.
Oh, charogne, on comprend bien.
Oui.
Ça sent la viande pourrie, quoi.
Oui.
Ouais.
Et il y a quoi? Il ressemble d'ailleurs à de la viande pourrie.
Il y a quoi derrière cette odeur? Il y a quelle plante?
Il y a une énorme fleur qui a un bon mètre de diamètre posée sur le sol et qui attire les mouches. Donc sentir la charogne, c'est pas idiot quand on veut attirer les mouches.
Ah, c'est un moyen de... Parce que c'est une plante carnivore, en fait.
Voilà. Non, elle n'est pas carnivore.
Ah, je croyais qu'elle mangeait les mouches, moi, si elle les attirait.
Elle ne les mange pas, non, elle est pollinisée par les mouches.
Ah, d'accord.
Ah oui, et donc cette fleur s'appelle la Rafflesia. C'est la plus grande fleur du monde.
Oui, ouais, de très loin.
Donc c'est un mètre, c'est ça, la plus grande fleur du monde. Elle fait à peu près un mètre.
Un peu plus d'un mètre,
ouais. Et on sait pourquoi. Donc elle sent mauvais parce qu'elle doit attirer les mouches. Ou elle sent mauvais
parce qu'elle sent mauvais.
Parce c'est une composition chimique.
Elle n'a pas trouvé le déodorant.
Excusez-moi, mais ces questions-là n'ont pas de sens.
Ah, non,
ça nous arrive de poser des questions qui n'ont pas de sens.
Oui,
c'est
bien le cas.
Mais c'est des questions de curieux et comme vous n'êtes pas très dissert, j'essaye d'obtenir plus d'informations pour étancher ma soif de curiosité.
Oui, c'est ça.
Bien volontiers, si j'en possède, mais je ne les ai pas.
On va y arriver.
Non, on a compris. C'est pas grave.
On a compris que c'était pour attirer les mouches, en fait.
Voilà. Et ça marche très très bien.
C'est ça la réponse à la question.
Cette fleur-là, et il y a un nuage de mouches au-dessus.
Okay. La nature assez bizarre, et l'humanité aussi, hein, d'ailleurs. On continue de parcourir le monde à leur découverte. Au menu, une plante qui n'a qu'une feuille et un arbre qui n'arrive pas à les perdre. Ces feuilles, mais il y a sans doute une raison à tout de suite, les curieux.
On est bien.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Voyage dans la flore insolite ce soir dans la curiosité sur RTL avec le botaniste Francis Allais qui nous explique ces étrangetés de la nature. Alors on avait tout à l'heure une fleur qui sent très 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 mauvais, qui sent la charogne, c'est ce que vous nous expliquiez, pour attirer les mouches. On va parler maintenant d'une plante qui n'a qu'une feuille, une seule feuille.
Une énorme feuille.
Alors comment s'appelle cette plante?
Pas dans la pièce. Là.
Allez, alors décrivez-nous cette plante.
Alors, d'abord, son vrai nom, c'est Amorphophallus, le phallus amorphe. Un phallus de 3 mètres de haut. Hein.
D'accord.
Ça mérite d'être vu.
Et c'est pour ça qu'il est amorphe, parce que c'est trop long.
Mais elle se tient droite ou pas, quand même?
Ça se tient parfaitement droit.
Ah, bon. Elle n'est pas si amorphe que ça.
C'est pas si mal.
Non, mais elle a une drôle de forme. Enfin bon, difficile.
Mais Syrah, oui, d'accord, une forme phallique, c'est ça?
Ça a fleuri à Brest, il y a quelques années.
Ah bon?
Oui. Et ça fleurit régulièrement en Angleterre.
Et donc, c'est une plante à une seule feuille?
C'est-à-dire qu'elle a une feuille chaque année. Et la feuille pousse et meurt dans l'année.
Mais elle doit mettre du temps à pousser cette feuille, alors?
Non, ça va très vite. Vous savez, c'est des pays où il fait chaud et humide. Et la croissance, vous la suivez à l'œil nu.
Elle a un drôle de surnom, cette fleur aussi. On l'appelle la fleur cadavre, c'est vrai?
Elle sent assez mauvais, en effet. C'est un peu comme le Rafflesia, ça attire les mouches.
Alors, une feuille de 6 mètres, c'est grand. Mais Francis Allais, dans vos pérégrinations de botaniste, vous en avez rencontré de plus grandes encore. Alors, on est en 69, au Congo.
Ah, chouette, on voyage dans le temps
ça,
aussi,
c'est génial.
C'est
alors, on vous imagine, vous êtes avec votre carnet sous le bras, c'est ça, prêt à dessiner. Vous avez des jumelles aussi, peut-être, pour observer. Je ne sais pas quel est votre attirail. Ouais. Et vous promenez dans la forêt de Bangou. Et que découvrez-vous, là?
C'est près de Brazzaville, et on trouve un palmier. Mais les feuilles sont tellement grandes qu'on ne voit pas le sommet des feuilles. On fait tomber une feuille, ça nous a pris un bon quart d'heure parce que c'est la queue de la feuille, elle est comme ça.
Mais vous la faites tomber comment? Vous secouez l'arbre?
Non, il faut une bonne machette.
Ah oui, à la machette.
Et ça finit par s'écrouler, ça tombe comme un arbre qui tombe. Et c'est là qu'on l'a mesuré et qu'on est tombé sur la feuille la plus grande du monde de très très loin.
Combien de mètres? Alors
28, 29, 30 mètres par exemple.
Donc elle mesurait donc presque 30 mètres. 4 de large,
4
c'est ça
de large, ouais.
Pour un poids de, vous vous en souvenez?
Une centaine de kilos, mais c'est sous.
Pour une seule feuille?
Oui.
Mais c'est complètement impressionnant. Et vous qui êtes botaniste, vous n'aviez jamais vu ça. C'était
une
première.
Non, on a non seulement battu le record, mais on l'a doublé.
C'est-à-dire qu'il y avait un record de la feuille la plus longue.
Oui, c'était 12 mètres. Donc.
D'accord. Donc vous l'avez de loin battu. Vous êtes rentré dans le Guinness Book des records avec cette feuille, c'est vrai ?
Je trouve ça drôle.
c'est amusant. Bon, c'est pas le genre de feuille qu'on fait sécher entre deux pages d'un livre, on est d'accord.
Il faut cependant en prendre des herbiers, sinon on ne saurait pas le nom de cette plante.
Ah oui, alors c'est quoi le nom de cette plante ? Parce que vous avez découvert une plante finalement, Francis Allais.
Non, elle était connue depuis longtemps. Ouais. Le Raffia Royal.
C'est joli.
Le Raffia Royal.
Mais ça mérite un tel nom avec une feuille qui pèse 100 kilos. Autre bizarrerie de la nature, un arbre qui, alors pour le coup là, ne perd pas ses feuilles, c'est ça ? C'est un eucalyptus ?
Un petit eucalyptus de la région tempérée froide d'Australie. Les feuilles sont attachées par deux. Donc quand elle meurt, elle glisse le long de la tige et elle se stocke en bas, en pile, comme ça, comme une pile de papier.
Mais ça fait comme un manchon, c'est ça, autour de l'eucalyptus ?
On a commencé par se foutre d'elle parce que ça nous paraissait rigolo. Mais en réalité, c'est très astucieux parce qu'en hiver, ça la protège contre le froid. C'est un eucalyptus qui arrive à supporter la neige. Il pousse en montagne et il neige souvent.
Donc c'est sa doudoune, en fait ?
Un peu ça.
J'aurais pas osé dire ça, Thomas, vous prenez des risques.
Non, c'est bien. C'est...
Ah non, vous trouvez ça bien ? D'accord, alors lui, c'est bien.
Attendez, ça sert à quoi une doudoune à tenir ?
Est-ce qu'on peut donner le nom entier de cet eucalyptus ?
Eucalyptus perignana.
Très bien, et il a un autre nom, c'est le gommier des neiges.
Oui, mais ça, c'est le nom australien, effectivement. Ah oui. Mais tous les eucalyptus, c'est des gommiers. Hein.
Et alors, vous êtes équipé comment, tiens, quand vous partez chercher ces plantes, les observer ?
Équipé.
Oui, je sais pas, vous avez un carnet pour les dessiner.
Ah oui, effectivement, il faut un papier et un crayon.
C'est
papier,
tout
crayon.
Une paire de bottes.
Un chapeau.
Ça peut être utile.
Ouais. De l'anti-moustique.
Non.
Bon. On fouille vraiment dans vos valises. Hein. Vous partez
seul,
vous voyagez
seul ? Parce que sinon, moi j'y vais en string et en tongs. Hein. Si vous n'êtes pas là pour nous conseiller, ça va mal se passer. Bon allez, on continue de se balader dans la nature avec quelques surprises encore. Une liane caméléon et une plante qui a le sens du rythme.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
La nature est belle, étrange, coquine, maligne et pleine de poésie. C'est ce que nous apprend le botaniste Francis Allais, notre invité, qui publie Atlas de botanique poétique aux éditions Artaud. On repart en voyage avec vous. Alors un jour, en Chine, le directeur d'un grand jardin botanique vous présente. Il vous dit, attention, voici la plante qui danse. Alors là, on imagine votre première réaction.
Il m'a demandé si je la connaissais. Je lui ai dit non.
Vous n'avez jamais dansé avec elle ?
Par contre, je lui ai demandé de m'y amener immédiatement, ce qu'il a fait.
Alors, qu'est-ce que vous observez là ? Déjà, première impression, à quoi elle ressemble, cette plante ?
Elle n'est pas extraordinaire. Elle a 2 mètres de haut, elle est assez modeste. Et
ça, pour un botaniste, elle n'est pas extraordinaire, c'est ça ?
Bon, enfin, je connaissais le genre, enfin, ce n'était pas vraiment une surprise.
Et alors, elle danse vraiment ?
Par contre, c'était un dimanche, il y avait un cercle de Chinois autour, assis dans l'herbe et qui tapait dans les mains. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils la font danser. Il faut un bruit fort. Alors, ils ont chanté en chinois. Ils m'ont demandé de chanter une chanson de marin en français. J'étais enchanté parce que ça danse.
Elle s'est trémoussée, la plante.
Elle a 3 feuilles et les feuilles latérales, tant que vous faites du bruit, elles font comme ça.
Il faut vous regarder sur RTL.fr pour voir les bruits. Donc, elles ondulent en quelque sorte,
si
j'essaye
si vous arrêtez. Elles arrêtent aussi.
Vous avez chanté quelle chanson de marin ?
Il y a tout un choix. Alors là, je suis absolument intarissable.
Mais essayez, ça me fera peut-être danser, on ne sait jamais.
Si la plante était là, je le ferais volontiers.
Moi, je veux bien faire la belle plante, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème.
Merci Thomas. Hein, vous serez notre touche féminine, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, oui.
Francis Allais, vous avez évidemment la bonne idée de la ramener, cette plante, en France, et de... l'analyser, c'est ça, d'essayer de la faire danser dans votre labo, parce que quand même vous avez un doute. Vous dites, est-ce que c'est pas le vent des mains qui claque autour ?
Oui, c'est ça. On a pensé que chanter, ça fait du vent, et taper dans les mains, ça en fait aussi. Donc on a remplacé ça par un transistor à côté de la plante. Il faut l'allumer assez fort et elle danse. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez, alors c'est peut-être une question bête, hein, mais je sais que je compte sur vous pour me le dire si c'est le cas. Est-ce que cette plante, pourquoi elle danse en fait ? Qu'est-ce qui l'a fait réagir ? C'est pas le plaisir du bruit, évidemment,
non,
c'est autre chose.
On ne le sait pas.
On ne le sait pas ?
Darwin savait qu'elle dansait et on ne sait pas, non, on ne sait toujours pas. Et il me semble qu'une plante comestible, c'est une famille très très comestible, elle ferait mieux de ne pas bouger pour ne pas attirer l'attention, mais elle danse, voilà. Alors nous ne savons pas pourquoi elle danse et en plus elle n'a pas d'oreille.
Et pourtant, elle a, de toute évidence, un capteur d'énergie sonore. Sinon, ça ne marcherait pas.
Et il y a d'autres plantes comme ça qui ont des capteurs d'énergie sonore ?
Plein. Attendez, les plantes, excusez-moi, elles vous voient.
Ah oui ?
Elles vous entendent, elles vous sentent.
Oh, bah non, attendez, comment ça, les plantes me voient ?
On en parlera une autre
mais
fois.
Mais non, c'est passionnant.
Non, racontez-nous
non,
ça.
C'est passionnant.
Ça me fascine,
ils
ça.
Ils n'ont pas d'organes. Oui. Ils ont très peu d'organes, les plantes. Nous, on en a une centaine dans un corps humain. Mmh. Elles en ont trois. Tiges, racines, feuilles, c'est tout. Et elles ont autant de sensibilité que nous, et même plus. Sensibilité à la marée, sensibilité à l'arrivée des séismes, etc. On peut leur envier leur sensibilité. Mais par contre, elles se débrouillent pour le faire sans organes. Et la sensibilité, elle est diffuse dans la structure cellulaire. Chaque cellule a ses propres récepteurs.
Ça veut dire que les plantes, elles se sentent aimées, par exemple, par des humains. Si on a une plante chez nous et qu'on s'en occupe bien, elle va se sentir bien ?
Oui, même si on s'en occupe maladroitement.
Et pourquoi là, vous me regardez comme ça? Parce que je suis en train de penser à mon Olivier que je ne traite pas très bien en ce moment sur mon petit balcon parisien. Vous saviez.
C'était la culpabilité qui émanait de vous, Sidonie. Cette plante qui danse, là, moi, je suis en train d'essayer de me recréer la scène dans votre laboratoire.
Ouais.
Est-ce que vous l'avez cultivée? Vous en avez fait d'autres?
Elle se cultive très facilement, il n'y a aucun problème.
Est-ce qu'il faut lui apprendre à danser? C'est absurde ce que je vous demande, mais est-ce qu'il faut lui apprendre à danser?
Si vous l'élevez pendant 3 ans sans la faire danser, elle va danser très très mal. Par contre, si vous la faites danser tous les matins, elle sera extrêmement joyeuse. Il y a un entraînement au sens sportif. Et en plus, il y a une mémoire de l'entraînement. Vous savez, les plantes, ce n'est pas du tout ce qu'on croit.
Et est-ce qu'elle est plus sensible à certains sons, à certains types de musique ?
Non, je ne crois pas. Mais il faut que ça soit fort, voilà.
Alors, il y a une autre merveille de la nature que vous nous faites découvrir, Francis Allais, c'est la liane caméléon. Elle vit
où ? C'est très étonnant.
Ah oui, et elle ressemble à quoi ?
C'est le Chili central. Une petite liane qui grimpe comme un liseron. Mais elle prend la forme des feuilles de l'arbre sur lequel elle grimpe.
Mais attendez, ça veut dire qu'elle produit des feuilles qui ressemblent à celles sur lesquelles elle a grimpé ?
Voilà. Mais une liane, on peut la faire changer de support, ou elle change spontanément de support. Elle change d'arbre. Elle change de forme de feuille.
Elle s'appelle la Bokila
trifoliolata.
Trifoliolata. Et alors, peut-être qu'il n'y a pas de réponse à cette question, mais pourquoi elle fait ça ?
Et non, là, on le sait. Parce que les prédateurs, qui sont des insectes, je crois des sauterelles, eh bien, les feuilles de la liane sont perdues dans la masse. Et donc, il y a moins de prédation que si elle avait des feuilles qu'on repère facilement. Ça a été bien étudié.
Ouais. Et vous êtes allé la voir, celle-là aussi ? Vous avez pris votre attirail qui n'en est pas un, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Quand même, quand vous êtes dans la forêt tropicale, j'y reviens parce que je suis un peu têtu, il y a des erreurs à ne pas faire. Est-ce qu'il y a des risques ?
De se perdre.
Ça vous est déjà arrivé ?
Oui.
Dans quelles conditions ?
Vous prenez une piste, vous croyez qu'elle est simple, mais dans un sens, elle est facile, et dans l'autre sens, elle est ramifiée. Donc vous partez dans une fausse direction.
Ça veut dire que vous partez toujours accompagné de guides ?
Il faut absolument.
Ouais. Et d'une boussole aussi ?
Oui. Ouais. Et s'il y a deux guides, c'est mieux. Parce qu'il arrive qu'il y en ait un qui se perde.
Oh, ça vous est déjà arrivé aussi,
bien
ça ?
Bien sûr.
Dans quel pays ?
En Guyane. Non, mais il n'y a rien de très étonnant
là. Si, vous ne vous rendez pas compte, nous, on n'est pas des aventuriers. Donc,
vous avez mis combien de temps pour
Attendez,
trouver
j'ai
le...
J'ai horreur des aventuriers.
Comment ça, vous en êtes un ?
Mais pas du tout.
Mais pas du tout ? Vous êtes quoi, un dessinateur,
un
scientifique ?
Oui.
C'est quoi la définition d'un botaniste ?
Quelqu'un qui s'intéresse aux plantes.
Et aux humains un peu quand même aussi, ou pas ?
Secondairement.
Oui. C'est marrant, je l'ai un peu senti.
Merci.
Non, c'est un compliment. Vous dessinez, vous avez un carnet sur vous, et vous dessinez, vous faites des croquis, c'est ça, des plantes que vous découvrez, et après chez vous, vous peignez ces dessins, parce que les dessins sont absolument magnifiques dans votre atlas de botanique.
Oui, mais ça, c'est pas fait directement dans la forêt.
Je sais bien. Je suis pas naïve.
C'est pas mal de boulot. Hein.
Vous écoutez RTL.
Comme un arbre dans la ville.
La curiosité est un vilain défaut.
55 ans d'exploration au milieu de 100 000 espèces d'arbres, des plantes virtuoses de la biochimie que vous jugez plus évoluées que l'homme.
Comme un arbre dans la ville.
RTL.
Pourtant, en un demi-siècle, ces forêts primaires sont en train de disparaître, victimes de la déforestation.
Ça m'émeut beaucoup
de penser que dans la durée de ma vie, j'ai vu disparaître toutes les grandes forêts primaires de la Terre.
Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes curieux, vous êtes récompensé avec notre invité, le botaniste Francis Allais. On se balade à la découverte des plantes les plus bizarres, les plus saugrenues, les plus poétiques aussi, que l'on peut trouver sur Terre. Vous publiez d'ailleurs un atlas de botanique poétique aux éditions Artaud, dans lequel finalement il y a une histoire qui nous fait comprendre pourquoi vous dites que vous aimez plus les plantes presque que les humains. C'est l'histoire... Non, mais je dis ça, c'était une boutade évidemment. C'est un arbre qui fait... froid dans le dos, vous le nommez l'arbre de l'adultère. Pourquoi ?
C'est comme ça qu'on l'appelle au Gabon.
Ouais.
Je crois que c'est une vieille histoire, on ne le fait plus maintenant, mais il fut un temps où effectivement les femmes coupables d'adultère étaient attachées au tronc de cet arbre. Or il se trouve qu'il est creux et bourré de fourmis extrêmement dangereuses. Ça pique plus fort qu'un frelon chez nous. Et donc les pauvres femmes, elles mouraient.
Alors cet arbre, déjà il ressemble à quoi ? C'est un arbre particulièrement sévère qui fait particulièrement peur ou c'est un arbre anodin qu'on...
Très très joli, ouais. On le voit partout. Mais par contre vous n'obtiendrez pas des gens qui aillent le couper.
Mais alors pourquoi des fourmis se cachent dans cet arbre tout à fait banal ?
Parce qu'une fourmi ça a besoin d'un logement, comme vous et moi.
Ah oui ?
Le logement il est fourni par la plante. En contrepartie... la plante est défendue énergiquement par ses fourmis.
Attendez, ça veut dire que l'arbre a l'idée de se dire « Tiens, je vais avoir des gardes du corps, ça va être des fourmis ?» Non mais c'est
bien
ça ?
Bien sûr, tout à fait.
C'est incroyable comme histoire.
Oh bah, y a plein d'histoires dans la nature d'associations entre, entre animaux, soit entre plantes et...
Il ne faut pas sous-estimer les trucs de la nature.
Ouais. Et ça veut dire que les fourmis réagissent à chaque fois qu'un humain s'approche de l'arbre ?
Oui, dès qu'on touche, dès qu'on est proche de l'arbre, elles sortent. Et ça devient dangereux. Vraiment, c'est des piqûres horriblement douloureuses.
Et c'est des petites fourmis comme celles qu'on connaît ici ou c'est plus gros ?
C'est plus gros. Et puis, ce n'est pas des fourmis qui mordent, c'est des fourmis qui piquent, comme des guêpes, comme des frelons.
Alors, direction maintenant avec vous, Francis Allais, l'île del Hierro, c'est dans l'archipel des Canaries, où vivait, je dis bien vivait, un arbre magique. C'est un arbre qui pleurait ou qui pleuvait ?
D'abord, il n'est pas magique. J'aime pas trop la magie.
Je vous
Mon
en
boulot,
prie.
C'est de tirer ça au clair.
Non, mais pour nous, simples badauds, un arbre...
Mais attendez, c'est pas pour les badauds. Les habitants de Hierro, ils buvaient cette eau-là. Et il y a des estampes où on les voit qui prennent la douche là-dessous.
Oui, mais aujourd'hui, ça nous paraît fou. Un arbre, il pleut que sous cet arbre-là. Ça, c'est un petit air magique, quand même.
C'est pas magique du tout.
Alors, expliquez-nous.
Alors, qu'est-ce qui se passe alors ?
On peut le remplacer par une structure totalement métallique ou en plastique. C'est simplement qu'il est situé dans un col où il circule des nuages énormes tout le temps. Voilà. Et si vous mettez des obstacles à ce nuage, des gouttes d'eau se forment au bout des pointes et ça tombe au sol.
Et donc cet arbre était juste au bon endroit ? Si je comprends bien, oui, pour capter l'eau des
c'est
nuages,
c'est
ça ?
C'est plus compliqué que ça, parce que c'est un gros arbre.
Ouais.
On ne peut plus imaginer qu'il va maintenant germer et se ravitailler en eau. C'est une relique d'une ancienne forêt. Alors, il est mort, en effet. Je crois qu'il a été descendu par la foudre. Mais les autorités locales en ont replanté plein.
Alors, ce qui est fou, Francis Allais, c'est que cet arbre, il a été repéré dès le XVIe siècle, lors de la conquête des Canaries par les conquistadors,
oui.
Qu'écrit à son sujet Bartolomé de las Casas dans son Histoire des Indes. Vous l'avez en tête ? Sinon,
oui,
je le lis.
Il a dit qu'il y avait un petit nuage au-dessus et qu'il pleuvait sous cet arbre. Et donc, les habitants ont mis une petite chape de béton en bas et puis une rigole qui va jusqu'au village. Il pleut jamais à Hierro.
C'est fou, donc ça veut dire que cet arbre qui s'appelle le garroé, il a vraiment fait vivre des populations entières.
Oui.
Et donc il a été aujourd'hui remplacé par ces fils de fer que vous expliquez.
Alors on a replanté des garroés tout de même.
On en a replanté quand même.
Il y en a d'ailleurs en France, on peut en voir facilement, à Antibes.
Quelle est, Francis Allais, la plante ou l'arbre de votre cœur que vous aimez particulièrement ?
Non, excusez-moi, ça je ne réponds pas à cette question.
Ah, parce que vous n'avez pas de cœur.
Non, c'est pas ça.
Non,
je répondrai comme les marins, un dans chaque port.
Un dans chaque port, c'est vrai.
Joli.
Alors une plante française.
Ah, je m'occupe pas du tout des plantes de France.
Ah bon, elles sont pas intéressantes.
Pas du tout, j'ai pas dit ça.
C'est pas votre spécialité.
Mais c'est celle de tellement de collègues que je préfère m'occuper
de celles
qu'on n'étudie pas.
Bon, en tout cas, on était ravis de vous rencontrer. Merci Francis. Beaucoup. Allez, vous publiez un très bel atlas de botanique poétique. C'est aux éditions Artaud. Au revoir.
Vous écoutez RTL.